Exploration, gagner en XP dans le JV.
Et aujourd'hui, on passe des niveaux. Comment, Raphaël ?
Eh bien, cette semaine, on va parler d'un petit concept en création de jeux vidéo. C'est l'un des principes qui a notamment permis aux médias d'être de plus en plus appréciés et reconnus. Aujourd'hui, je vous parle de consonance, mais surtout de dissonance ludonarrative. Tout comme vous, moi aussi, la première fois que j'ai entendu ces termes, je les ai trouvés compliqués. Mais rassurez-vous, il s'agit clairement d'un des concepts les plus faciles à retenir quand on parle de jeux vidéo. Et c'est facile, car encore une fois, tout est dans le nom. La consonance, en musique, c'est quand un ensemble de sons est considéré comme agréable à l'oreille. Et la dissonance, c'est l'inverse, c'est quand l'ensemble est considéré comme désagréable. Et donc, ces deux termes empruntés à la musique, on les retrouve associés à l'adjectif ludonarratif. Ce mot, vous l'aurez compris, il est construit à partir du mot narratif auquel s'ajoute le préfixe ludo, qui indique donc le rapport au jeu. Ainsi, le mot ludonarratif parle du rapport entre le jeu et la narration au sein d'une œuvre vidéoludique. Et du coup, si vous avez bien suivi, la consonance ludonarrative, c'est quand les éléments de jeu sont en adéquation avec l'histoire racontée au sein d'un jeu vidéo. Mais le vrai sujet qui a apporté beaucoup au médium, c'est son opposition, la dissonance ludonarrative, soit quand la mise en jeu d'un titre ne colle pas avec son récit. Ce concept, il a été introduit par le réalisateur de jeux canadien Clint Hawking, qui a notamment travaillé sur les jeux d'infiltration Splinter Cell. C'est à travers un billet de blog posté le 7 octobre 2007 que Hawking va introduire cette notion d'analyse de jeux vidéo en abordant le cas du jeu de tir BioShock. BioShock est un jeu de tir-aventure dans lequel notre personnage Jack se retrouve dans la ville sous-marine de Rapture. Dans cette ville, les recherches scientifiques ont poussé l'idée de transhumanisme à fond. Les scientifiques, exilés à Rapture, ont développé des produits chimiques nous donnant des super-pouvoirs, comme la possibilité de jeter des éclairs. Jack reçoit donc des pouvoirs et va se retrouver dans un conflit entre Andrew Ryan, le fondateur de Rapture, et Atlas, un révolutionnaire. Pour faire court, Ryan croit en une société ultra-libérale qui se moque des droits de l'homme et Atlas s'oppose à ses idées. Pour devenir plus fort face aux sbires de Ryan, parce que oui, le jeu nous place directement du côté d'Atlas, il nous est nécessaire d'améliorer nos pouvoirs. Pour ce faire, il faut absolument s'emparer le plus possible d'une source d'énergie gardée par les petites sœurs. Les petites sœurs, ce sont des petites filles que Ryan et ses scientifiques ont modifiées pour en faire des gardiennes de la ressource. Elles sont trouvables un peu partout dans Rapture et il faut leur voler leurs ressources pour pouvoir acheter des améliorations dans une boutique spécialisée. Et donc, notre créateur canadien explique qu'il y a un manque de cohérence entre l'histoire racontée par les possibilités d'action du joueur ou de la joueuse et le récit que les éléments narratifs du jeu nous offrent. Pour Hawking, si la narration de BioShock veut que le protagoniste soit charitable, voire altruiste en suivant les idées d'Atlas, la mise en jeu reposerait, elle, sur l'égoïsme et la recherche du pouvoir, notamment celui des petites sœurs. Ainsi, elle nous ferait nous donc adhérer aux idées de Ryan. Donc, vous l'aurez compris, la dissonance ludonarrative, c'est quand l'histoire racontée par les phases de jeu ne délivre pas le même message que celle dictée par le scénario. Alors, même encore de nos jours, certains ne sont pas vraiment fans de cette notion. En effet, le souci, c'est que ces principes de consonance et dissonance viennent opposer des éléments du jeu, alors que ce dernier devrait être au final jugé comme l'ensemble de ces éléments. Cependant, le cerveau humain ne fonctionne pas ainsi. S'il y a dissonance, c'est que quelque chose ne fonctionne pas. Évidemment, cela ne dérangera pas tout le monde. En réalité, la dissonance ludonarrative est plus un problème qui touche les concepteurs et conceptrices que les joueurs. En effet, si on n'arrive pas à comprendre le message qu'a souhaité faire passer le jeu, ce sont les créateurs qui sont pour le coup un peu embêtés. Bien souvent, une dissonance est due à un manque de communication entre différentes personnes au sein d'une équipe de développement. Ainsi, quand bien même chacun a fait du super boulot, tous les membres d'une équipe ne font pas passer le même message. Alors, cette dissonance entre deux spécificités, elle peut se retrouver dans d'autres médias où plusieurs personnes collaborent sur une même œuvre. Par exemple, dans la bande dessinée ou au cinéma, si un personnage est écrit comme un individu répugnant, que si on pouvait le sentir, on aurait sûrement envie de vomir, mais qu'il est dessiné ou montré à la caméra comme propre sur lui, rasé de près et cheveux soyeux au vent, eh bien là, pour le coup, il y a dissonance. Alors, évidemment, dans les autres médias, c'est plus simple de voir cette dissonance, d'autant que ces derniers sont plus anciens que le jeu vidéo et ont donc appris à les éviter. En effet, comme je l'ai dit, le terme de dissonance ludonarrative n'a été utilisé qu'en 2007. Donc certes, ça fait tout de même 15 ans, mais le temps que l'idée fasse le tour de l'industrie, ce n'est pas si simple. Tenez, par exemple, dans Uncharted 4, bon, je sais que j'ai déjà parlé d'Uncharted la semaine dernière, mais que voulez-vous qui aime bien châtie bien. Bref, dans Uncharted 4, Nathan Drake continue de tuer à tour de bras. Mais à aucun moment ce n'est remis en question. Cependant, les petits gars du studio Naughty Dog qui bossaient sur le titre, ils avaient entendu les critiques du précédent opus. Ainsi, dans le jeu, on obtient une petite récompense quand on tue 1000 ennemis. Et le nom de cette récompense, c'est dissonance ludonarrative. Donc en réalité, le concept est important, mais pas non plus obligatoire. En effet, il existe plusieurs moyens d'apprécier une expérience vidéoludique, et de nombreux joueurs ne prient que par les aspects narratifs, tandis que d'autres par les aspects ludiques. Pourtant, comme je le disais plus tôt, la notion de dissonance ludonarrative a permis aux jeux vidéo d'être plus reconnus dans le monde culturel. En effet, le fait de pointer ces incohérences a permis aux créateurs et créatrices de créer des œuvres plus sérieuses qui abordent aussi bien sur le fond que sur la forme des sujets qui leur tiennent à cœur. Cette notion a vraiment permis de faire un pas en avant dans la création de jeux vidéo. Bon, alors comme je l'ai dit, il ne faut pas non plus considérer la notion comme absolue. Beaucoup de jeux n'ont encore aucun problème à créer cette dichotomie entre phase de jeu et narration, et cela ne les empêche pas d'être excellents. D'ailleurs, pléthore de mes titres favoris souffrent de dissonance ludonarrative, comme par exemple la saga Monster Hunter. Pour vous faire une idée, dans Monster Hunter, on incarne un chasseur ou une chasseuse. Alors, on est loin de nos chasseurs à 3 grammes qui tirent sur les cyclistes. Hein. Non, là, on chasse des gigantesques créatures, dragons, dinosaures, léviathans, de véritables machines à détruire tout semblant de civilisation humaine. Et donc, dans le jeu, on se retrouve à devoir chasser ces monstres qui, bien souvent dans l'histoire d'un Monster Hunter, menacent le village qui nous sert de base d'opération. Mais le truc, c'est qu'il ne s'agit pas tout le temps de se débarrasser d'une menace précise. Le jeu nous fait bien comprendre que si vous souhaitez devenir plus fort, il va falloir tuer plusieurs fois le même monstre pour récupérer des composants qui nous permettront d'améliorer notre équipement. Du coup, quand on vous dit que votre mission est de réguler la population de monstres, chose que disent les vrais chasseurs aussi d'ailleurs, mais qu'à côté on obtient une récompense quand on tue ou capture 500 monstres, permettez-moi de douter de la validité de cet argument narratif. Allez, je vous propose même un petit calcul. En se basant sur l'ensemble des ventes de la franchise Monster Hunter, soit 88 millions de ventes, on fait une simple multiplication, hein. Donc 88 millions de fois 500, on obtient 44 milliards de monstres tués. Bon, ouais, narrativement, on vous fait passer pour un écologiste, ludiquement, vous êtes plus proche du colonisateur. Mais bon, comme je l'ai dit, ça n'enlève rien à la qualité des titres. Tous les jeux n'ont pas volonté à retranscrire parfaitement un récit à travers leur phase de jeu. Et c'est compréhensible. Un jeu vidéo comme Monster Hunter, c'est en moyenne 3 à 5 ans de travail, tout en sachant que derrière, il y a des investisseurs qui mettent la pression sur les équipes pour que le titre sorte rapidement. Ainsi, selon les choix des équipes créatives, il n'est pas toujours possible d'offrir des passages ludiques bien pensés et riches en possibilités appuyés par un récit fort. Et ça, surtout quand l'aspect ludique repose sur un fantasme de l'extinction de masse et des ressources infinies. Donc vous l'aurez compris, la dissonance ludonarrative, c'est une notion importante pour savoir si une œuvre vidéoludique réussit bien à faire passer son message. Cependant, certains titres n'ont pas volonté à faire passer des messages, ou en tout cas pas par leur narration. Les scénarios de jeux vidéo ont pendant longtemps été plus des contextes que de véritables histoires. Mais comme je l'ai dit, il y en a pour tous les goûts dans le jeu vidéo. Narration, jeu, contemplation et j'en passe, et des meilleurs, il y a plein de moyens d'apprécier un jeu. Et c'est aussi ça qui rend le média vidéoludique formidable. Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de rester bon envers les uns et les autres.